France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La suspension de la réforme des retraites passera par un amendement législatif, précision apportée aujourd'hui par Sébastien Lecornu. L'adoption de cet amendement n'est pas du tout certaine à ce stade, car il doit s'inscrire dans le projet de budget de la Sécurité sociale. Marine Le Pen, mise en échec au Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, rejette son recours sur l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. En cas de dissolution de l'Assemblée, la patronne des députés RN ne pourra pas se représenter aux législatives. L'industrie automobile française menacée de disparition, alerte un rapport du Sénat. Les sénateurs réclament une taxation massive des véhicules chinois importés en France. Donald Trump qui menace de ne plus soutenir financièrement l'Argentine si son allié Javier Milei devait perdre les prochaines élections. L'ingérence du président américain est mal perçue à Buenos Aires. Le reportage à suivre de Caroline Vic. Il ne suffit pas d'annoncer la suspension de la réforme des retraites, comme l'a fait Sébastien Lecornu hier. Encore faut-il inscrire dans la loi le gel de la mesure d'âge et de l'allongement de la durée de cotisation. Le Premier ministre a clarifié les choses tout à l'heure à l'Assemblée. La suspension de la réforme ne passera pas par une loi spécifique, mais par un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Depuis hier soir, une certaine confusion régnait sur le véhicule législatif emprunté par le gouvernement pour concrétiser cette concession faite au Parti Socialiste. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Cet amendement sera soumis aux députés le mois prochain, mais son avenir reste incertain.
Oui, parce que c'est un amendement justement, quelques lignes à l'intérieur d'un grand texte avec de nombreuses autres dispositions. Alors c'est le moyen le plus efficace de tenir parole, assure Sébastien Lecornu.
Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre.
Cet amendement, le Premier ministre insiste, le Parlement sera libre de l'adopter ou non.
Ça sera au Parlement de le décider. Et donc de chacune et chacun ici de porter ses convictions en disant ce que vous souhaitez pour les retraites, non seulement pour aujourd'hui, mais n'ayons pas peur, aussi pour demain.
Mais si la suspension de la réforme des retraites a de fortes chances d'être validée par l'Assemblée, on ne peut pas encore en dire autant du texte qui la comprend, le PLFSS. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public.
Le désavantage, entre guillemets, le syndrome un peu de l'arroseur arrosé de l'abandon du 49-3 réclamé par le PS, c'est que il ne s'agira pas seulement de s'abstenir pour que le budget passe. Il faut que positivement, tout le socle commun et les socialistes votent le texte. Et en l'occurrence, il faut non seulement que les socialistes avalent la couleuvre de l'ensemble du reste du budget pour suspendre la réforme des retraites, mais il faut également que les LR acceptent d'avaler la couleuvre de la suspension de la réforme des retraites. Comprenez bien que pour l'un comme pour l'autre, ça va être extrêmement, extrêmement difficile.
Difficile à l'Assemblée comme au Sénat, où les équilibres seront renversés, si tant est qu'un vote soit d'ailleurs un jour programmé, tant il paraît impossible aujourd'hui de dire comment le marathon budgétaire des parlementaires va se terminer.
Rosalie Lafarge, merci. Après l'Assemblée, hier, Sébastien Lecornu était au Sénat aujourd'hui pour prononcer sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre a tenu un discours légèrement différent de celui qu'il avait réservé aux députés. Il a appelé la Chambre haute à la sagesse et au compromis. Les sénateurs très attentifs au sort réservé aux collectivités locales dans le prochain budget. On retrouve au Sénat Jeanne Serrin. Jeanne, la majorité sénatoriale de droite a lancé un avertissement à Sébastien Lecornu. Pas de chèque en blanc au nouveau gouvernement.
Pour Sébastien Lecornu, l'accueil n'a pas été très chaleureux cet après-midi au Sénat. Les sénateurs de droite plutôt méfiants, car ils ont été très froissés, nous confie une sénatrice LR, froissés de ne pas avoir été consultés par le Premier ministre à Matignon la semaine dernière, froissés surtout par l'annonce hier de la suspension de la réforme des retraites, le symbole du renoncement, juge cette même élue. Le président du groupe LR au Sénat, Mathieu Darnaud, juge surtout incompréhensible ce compromis.
Incompréhensible parce qu'on ne sait pas où nous allons trouver les ressources budgétaires pour pouvoir compenser cette dépense nouvelle.
Dans les rangs de l'Union centriste, on s'inquiète aussi de voir désormais le gouvernement à la merci du Parti socialiste. Le sénateur de la Haute-Savoie, Loïc Hervé.
Je suis inquiet parce que je me dis que maintenant que le Parti socialiste a obtenu la suspension, l'abandon du 49-3, c'est quoi le gain d'après quoi ? Quelle va être l'exigence de plus ? Ça va être Zucman ? Ça va être quoi ?
Car ici, les sénateurs se projettent vers une non-censure demain et le prochain chapitre, l'examen du budget. Et là encore, la copie du gouvernement livrée hier est loin de rassembler le soutien de la majorité sénatoriale. 14 milliards d'euros de nouveaux prélèvements obligatoires, ça ne passera pas, prévient Mathieu Darnaud.
14 milliards pour nous, c'est beaucoup trop important. Il faut une baisse de ces prélèvements obligatoires, une baisse de la dépense publique. C'est dans ce sens que nous allons écrire notre copie budgétaire. Et si le gouvernement ne consent pas à soutenir, alors nous nous opposerons à la position qui sera celle du gouvernement.
Sans utilisation du 49-3, les sénateurs ici se préparent donc à une vraie bataille avec l'Assemblée. Nous avons déjà avalé une couleuvre, poursuit la sénatrice LR. Attendez-vous à ce que nous ne lâchions rien, prévient-elle. On va se battre.
Jeanne Serrin depuis le Sénat. Demain, Sébastien Lecornu affrontera deux motions de censure à l'Assemblée. L'une du Rassemblement National et l'autre de la France Insoumise. Le Premier ministre espère bien franchir l'obstacle grâce à la neutralité bienveillante du Parti Socialiste qui ne votera pas cette censure. Sauf que le groupe PS à l'Assemblée n'est pas complètement unanime sur la question. Au moins 4 députés socialistes voteront pour renverser le gouvernement selon le Figaro. Paul Christophe, les 3 députés ultramarins, Giovanni William, Philippe Naillet et Élie Califère, 3 élus qui dénoncent le coup de rabot budgétaire de 250 millions d'euros pour l'outre-mer dans le projet de budget du gouvernement. En cas de dissolution de l'Assemblée dans les prochaines semaines, Marine Le Pen ne pourra pas se représenter aux législatives. La patronne des députés RN a essuyé aujourd'hui un nouveau revers judiciaire. Le Conseil d'État a rejeté son recours contre l'exécution immédiate de sa peine d'inéligibilité prononcée le 31 mars, 5 ans, dans le cadre de sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Radié des listes électorales en avril, Marine Le Pen demandait au Conseil d'État de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, et son recours a échoué, Nicolas.
Oui, alors pour bien comprendre, et vous l'avez dit, Marine Le Pen avait déposé un recours assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité. C'est le Conseil d'État notamment qui décide de transmettre ou non ces QPC. L'ancienne présidente du Front National a été radiée des listes électorales en avril, et c'est de cela dont il est question dans son recours. Marine Le Pen demandait l'abrogation ou la modification d'une série de dispositions du code électoral qui avaient permis cette radiation. Le Premier ministre d'alors, François Bayrou, n'ayant pas donné suite à la demande qu'elle lui avait formulée, elle était fondée à agir en justice. Sauf que selon le Conseil d'État, les dispositions réglementaires contestées soit n'existent pas, soit sont sans rapport avec l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'inéligibilité. Le juge a donc suivi l'avis négatif du rapporteur public qui estimait en outre que le litige sur les listes électorale avait été fabriquée de toutes pièces par Marine Le Pen pour pouvoir poser sa question prioritaire de constitutionnalité. Ce rejet par le Conseil d'État n'épuise pas tous les recours. Si Marine Le Pen, en cas d'élection législative anticipée ou bien présidentielle, persistait à vouloir se présenter, la validité de sa candidature serait examinée par le Conseil constitutionnel et selon les juristes, elle pourrait alors former un recours contre un refus de candidature. C'est vraiment de la mécanique juridique. Le vrai grand rendez-vous pour Marine Le Pen, c'est son procès en appel.
Nicolas Ballu, merci. Ce procès en appel qui aura lieu début 2026, du 13 janvier au 12 février, soit un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle de 2027. Parmi les défis qui attendent le nouveau gouvernement Lecornu, s'il survit à la censure, il y a la réindustrialisation. Il y a urgence pour l'industrie automobile française qui pourrait bien disparaître selon un rapport du Sénat dévoilé ce matin. Le secteur emploie encore aujourd'hui 350 000 salariés chez les constructeurs et 450 000 chez les équipementiers et sous-traitants. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Le rapport sénatorial préconise de reporter l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves dans l'Union européenne, interdiction prévue en 2035, mais surtout il recommande de taxer massivement les véhicules chinois.
Oui, elle seule, la Chine représente les 2/3 des ventes de voitures électriques dans le monde et ses constructeurs ont plus de 10 ans d'avance par rapport à nous. Pour se protéger, les rapporteurs préconisent donc de mettre en place des taxes massives durant une durée déterminée, avec le risque malgré tout que la Chine nous bloque ses ventes de terres rares si importantes pour la fabrication des ventes de voitures électriques. Un risque à prendre malgré tout, estime Alain Cadec, sénateur Les Républicains et membre de la Commission des affaires économiques au Sénat.
Si, bien sûr, puisqu'on est dépendant de la Chine en matière de métaux rares pour fabriquer nos batteries. Et nous sommes très en retard sur la fabrication des batteries. Donc évidemment, il y a un risque, c'est certain. mais à certains moments, il faut prendre des risques. Et là, aujourd'hui, l'industrie automobile est en grand danger sur le plan national. C'est 800 000 emplois pour la France. 350 000 emplois en amont, 450 000 emplois en aval. Donc, ce seraient ces emplois qui seraient menacés.
Le rapport propose également que 80% des composants des marques non européennes soient fabriqués sur le vieux continent. Enfin, pour relancer le marché de la voiture électrique en France, il suggère d'augmenter le nombre de bénéficiaires au leasing social qui pour l'instant est plafonné à 50 000, mais pas sûr qu'au vu du contexte budgétaire, les mesures soient retenues pour le projet de loi de finances.
Hakim, arrêtons-nous un instant sur le cas de Stellantis. Le géant mondial de l'industrie automobile a mis au chômage technique plusieurs sites de production en France et en Europe. Et dans le même temps, il annonce 13 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis.
Effectivement, ce plan prévoit le lancement de 5 nouveaux véhicules pour ces marques américaines, comme Jeep et Chrysler. Ce qui va permettre au groupe d'embaucher plus de 5000 personnes dans ses usines et de doubler la production aux États-Unis, le marché où il vend le plus de voitures actuellement. Mais si Stellantis privilégie désormais l'Amérique, c'est aussi parce que Donald Trump, ainsi qu'une grande partie de ses électeurs, sont pour la voiture thermique et contre l'électrique, ce qui à court terme doit permettre aux constructeurs de générer plus de bénéfices dans la mesure où ils maîtrisent parfaitement les moteurs à essence qui sont très demandés aux États-Unis.
Hakim Kasmi, merci. Les libertés académiques sont de plus en plus menacées dans le monde et la France n'échappe pas au phénomène. C'est ce qu'affirme une enquête révélée aujourd'hui par France Info et le journal Le Monde. Enquête lancée début 2024 par des représentants des universités françaises. Le constat est bien sûr sévère pour les États-Unis où Donald Trump a coupé les financements de certaines universités prestigieuses au nom de la lutte contre le wokisme. On n'en est pas là en France, même si dans notre pays, les atteintes à la liberté des chercheurs se multiplient. Noémie Bonin, quelles sont les dérives concrètes que cette enquête révèle chez nous ?
On y parle d'ingérence étrangère, mais aussi de procédures bâillons en hausse depuis quelques années, affirme Stéphanie Balme, l'autrice du rapport, directrice du Centre de recherche internationale à Sciences Po.
Des entreprises ou des groupes qui contestent le contenu d'une recherche académique et qui empêchent le ou la chercheur en question de publier son travail. On les appelle bâillons dans le sens où l'objectif est de faire taire un chercheur ou une chercheure.
Et ça arrive dans les domaines les plus sensibles, climat, agroalimentaire, santé, vaccins. L'enquête pointe aussi les réseaux sociaux qui déforment les propos de chercheurs et rendent leur vie impossible, sans oublier les pressions sur le portefeuille avec des retraits de financement de la part d'acteurs privés et de collectivités locales. D'un point de vue mondial, l'autrice de cette enquête parle de McCarthyisme 2.0, notamment aux États-Unis, mais la France n'est pas loin, assure Stéphanie Balme.
Nous ne sommes pas encore dans un moment trumpien, ni un moment hongrois, mais on est quasiment déjà en rouge et on est dans ce moment de transition et de bascule.
Il faut donc aujourd'hui renforcer cette liberté académique. L'universitaire formule 65 recommandations, inscrire ce terme dans la Constitution, développer la protection juridique des chercheurs ou encore lancer une grande campagne de sensibilisation pour le grand public.
Israël attend toujours le rapatriement des corps de tous les otages morts en captivité à Gaza. Le Hamas a remis pour l'instant 7 dépouilles sur les 28 encore retenues dans l'enclave palestinienne. Ce retard bloque la reprise totale de l'aide humanitaire aux Palestiniens, même si l'État hébreu pourrait rouvrir dans les prochaines heures le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza. Israël, où des dizaines de personnes ont suivi aujourd'hui la procession funéraire de Guy Ilouz, ce guitariste enlevé le 7 octobre 2023 lors du festival Nova. Le Hamas a restitué sa dépouille hier. La cérémonie a débuté devant la morgue de Rishon Lezion dans le centre d'Israël avant de rejoindre Ra'anan, une ville du nord du pays où vivait Guy Ilouz. Le reportage sur place de Laurent Macchietti et Valérie Crova.
Un beau soleil d'automne accompagne le millier de personnes venues se recueillir au petit cimetière de Ra'anan. Alice, la tante de Guy Ilouz, sourit timidement.
C'était un amour de garçon, un amour. Et c'est un garçon qui ne devait pas voir sa mort, c'est tout. Si on dort, on le voit, si on mange, on le voit, si on sort, on le voit. J'espère que son âme soit en haut.
Une dizaine de membres de famille d'otages forment un groupe soudé. Nira, la maman en Dalmog Sarossi, tout en dignité, est là. Elle a enterré son fils il y a un peu plus d'un an dans ce même cimetière. D'un côté, nous sommes remplis de douleur, mais d'un autre côté, il y a énormément de consolation de savoir qu'il est enfin ici et que nous pourrons nous rendre sur sa tombe et prier pour lui.
קבר שלו ולהתפלל בשבילו.
גי et Almog étaient ensemble au festival Nova. Ils étaient inséparables dans la vie, ils le seront aussi dans la mort. Ils sont l'un à côté de l'autre. Dès qu'Almog a été enterré, Michel, le père de Guy, a réservé cette parcelle et il a dit « quand Guy reviendra, il sera ici ». Israël se prépare à d'autres funérailles. Tamir Nimrodi sera inhumé demain. Sa dépouille a été rendue hier soir par le Hamas.
Valérie Crova et Laurent Macchietti, envoyés spéciaux de France Culture en Israël. En politique comme en diplomatie, il ne faut jamais insulter l'avenir. Nouvel exemple à Moscou aujourd'hui où Vladimir Poutine a reçu le président syrien par intérim Ahmad el-Sharré pour une première rencontre depuis le renversement de Bachar al-Assad, un ex-allié clé du Kremlin. Devant les caméras, le président russe a accueilli chaleureusement Ahmad el-Sharré au Kremlin, tandis qu'en coulisses, Damas faisait savoir qu'il allait demander à Moscou de livrer Bachar al-Assad, l'ancien président syrien qui est réfugié avec sa famille en Russie. Depuis sa fuite de Syrie en décembre 2024, pendant des années, l'armée russe a combattu les forces d'Ahmad el-Sharré. Mais aujourd'hui, tout semble oublié. On retrouve à Moscou Sylvain Tronchet.
Drôle d'ambiance à Moscou pour cette première rencontre entre Vladimir Poutine et Ahmad el-Sharré. Le président russe déroule le tapis rouge à son ancien ennemi et l'air un peu emprunté, cherchant ses mots, lui assure que jamais la Russie n'a voulu de mal à son pays.
У нас в России никогда в отношении Сирии не было никаких как.
La Russie n'a jamais entretenu avec la Syrie de relations liées à nos intérêts politiques ou à nos intérêts particuliers. Nous avons toujours été guidés par une seule chose, les intérêts du peuple syrien.
En recevant le nouvel homme fort syrien, le chef du Kremlin tente donc de rétablir une relation avec son allié historique au Proche-Orient. La Russie voudrait garder ses deux bases militaires dans le pays, essentielles pour sa logistique vers l'Afrique et la Méditerranée. Mais le nouveau pouvoir syrien a fait passer le message avant même la rencontre. Il veut que Moscou lui livre Bachar el-Assad, réfugié en Russie. Le Kremlin n'y a pas l'air disposé pour l'instant, en tout cas, et propose plutôt une aide alimentaire, du pétrole, et une assistance à la reconstruction du pays que l'armée russe a largement contribué à détruire. Rien n'a filtré pour l'instant de ces négociations qui ne font que débuter.
Quand Donald Trump s'invite dans le débat électoral en Argentine, le président américain menace de couper les vivres financières au pays. Si son allié argentin, le président ultralibéral Javier Milei, devait perdre les élections législatives prévues à la fin du mois. S'il gagne, nous restons avec lui et s'il ne gagne pas, nous partons, a lancé Donald Trump en recevant Javier Milei à la Maison-Blanche. L'Argentine, malmenée sur les marchés financiers mondiaux, a besoin du soutien américain, mais cette ingérence de Trump est plutôt mal perçu à Buenos Aires, où l'on retrouve Caroline Vic.
La conférence de presse donnée par Donald Trump hier n'a pas fait l'unanimité. Pour les plus optimistes, la possibilité de recevoir 20 milliards de dollars du Trésor américain pourrait aider le pays à sortir de la crise. Louis, 42 ans.
Toute aide me paraît positive. Beaucoup d'Argentins sont fans des États-Unis. Certains connaissent d'ailleurs mieux Miami que leur propre pays, donc je ne pense pas que ça les dérange trop.
Mais pour une grande partie de la population, ce qui a choqué, c'est l'ultimatum de Trump. Pas de victoire aux législatives fin octobre, pas d'argent. Mabel, 55 ans.
Tu fais ça et je te donne ça en échange. Ce que veut faire le président Trump est une extorsion pour nous imposer ses règles. Je lui réponds un non percutant. Même s'il nous promet monts et merveilles, non.
Javier Milei n'a pas non plus réussi à redorer son image avec cette rencontre à la Maison Blanche. Son attitude soumise n'est pas très bien passée auprès des Argentins. Ariel, 52 ans.
Je crois que notre président aurait beaucoup aimé être né aux États-Unis et être citoyen américain. Mais moi, j'ai mes convictions, même si on veut me donner des millions de dollars. On n'en peut plus de ce gouvernement et je crois qu'il va largement perdre les élections.
Dans 10 jours, les Argentins iront voter, mais selon les sondages, une défaite des libertariens est annoncée, ce qui signifierait que le Trésor américain ne verserait pas son aide à l'Argentine. La fin de la campagne s'annonce donc intense, car aujourd'hui, tout le programme économique de Milei et sa crédibilité politique dépendent du résultat de ces élections.
Caroline Vic, correspondante de France Culture en Argentine. Il était l'une des voix les plus célèbres du cyclisme à la télévision et à la radio. Le journaliste sportif Jean-René Godard est mort aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Jean-René Godard qui avait commenté 33 Tours de France, 13 Jeux Olympiques et 21 tournois de Roland-Garros. Un mot du temps demain, la grisaille restera tenace sur la moitié nord avant l'arrivée de quelques éclaircies. Au sud, le soleil dominera, mais quelques pluies seront possibles du côté du littoral méditerranéen. Les températures minimales iront de 3 à 13 degrés. L'après-midi, il fera entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique Noé Chabanne.